Et c'est le journal de Florence Paracuellos. Bonjour Florence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. 3 mois de guerre en Ukraine et combien de villes rayées de la carte après Mariupol au bord de la mer Noire, Severodonetsk au cœur du Donbass n'est plus qu'un champ de ruines. Témoignage dans un instant, le Donbass où se concentre désormais la puissance de feu de l'armée russe. Faut-il maintenir Damien Abad au gouvernement si Emmanuel Macron ne veut pas céder à la pression? Elisabeth Borne aurait bien envie d'en finir rapidement avec cette affaire. La transition écologique pour tous, chaque ministre recevra sa feuille de route en la matière sous la houlette de Matignon et de votre invité Jérôme.
Oui, la nouvelle ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin, l'invitée du grand entretien de la matinale. Auditeur d'Inter, j'attends vos appels. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Des fraises à jeter parce qu'il a fait trop chaud, c'est ça aussi l'été au printemps. Nous serons dans le Tarn-et-Garonne avec un producteur amer à Roland-Garros. Pour ceux qui sera peut-être le dernier match de la carrière de Joe Wilfried Tsonga aujourd'hui. Et puis sur les étagères du Livre Inter, avec l'un des 10 auteurs en lice, ce matin c'est Julia Deck et son roman Monument National.
France Inter.
Avant la guerre, c'était une ville de plus de 100 000 habitants, Severodonetsk et son énorme usine chimique, cible numéro un des Russes dans le Donbass après 3 mois de guerre, et désormais comparée à Mariupol sous le déluge des bombes. Ce qu'il reste de Severodonetsk, c'est ce Français qui nous le raconte. Henri Kamnen de l'association Road to Relief y évacue des civils depuis une semaine.
C'est une ville fantôme, c'est assez sidérant, c'est quelque chose de post-apocalyptique. Toute rue est détruite. Un immeuble sur deux est effondré. Il y a des voitures explosées un peu partout, qui font d'ailleurs office de checkpoint, ou du moins de barrage sur la route. Il y a des câbles sur la route partout à terre. Des débris, des éclats de shrapnel. La ville est vide. On ne voit pas âme qui vive. On entend seulement les bombardements. Et on ne peut plus y vivre. Les gens n'ont plus rien à manger. Et d'ailleurs, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de l'aide humanitaire et non pas des évacuations, surtout par des organisations étrangères.
Bonjour Valérie Krova.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Vous êtes ce matin à Kramatorsk, une autre ville du Donbass. Cette région que l'armée russe veut conquérir intégralement. Objectif très clair après 3 mois de conflit. Alors, qui sont les civils, Valérie, qui vivent encore dans le Donbass aujourd'hui?
Écoutez, il y a beaucoup de personnes âgées, des malades, très dépendants de la distribution de nourriture. Nous avons rencontré, par exemple, ici à Kramatorsk, avec Laurent Macchietti, des volontaires qui vont livrer des vivres, parfois à vélo, à des habitants qui ne peuvent pas ou ne veulent pas quitter leur maison. Il faut comprendre que la majorité des habitants qui sont restés dans le Donbass, on ne sait pas exactement leur nombre, ces habitants sont très attachés à leur territoire historiquement influencé par la Russie. On parle un mélange de Russes et d'Ukrainiens. On regarde la télévision russe. Cela peut expliquer une attitude parfois de complaisance à l'égard de Moscou. On ne condamne pas vraiment l'offensive déclenchée par la Russie. Je dirais qu'il y a encore une mentalité à la soviétique qui alimente aussi un repli sur soi chez les habitants du Donbass. Des habitants qui ne voient pas toujours d'un très bon œil les journalistes occidentaux venus couvrir ce conflit. C'est toute la complexité de cette région pauvre où se mêlent différentes culture et influence sur un tout petit territoire.
Valérie Krova et Laurent Macchietti, envoyés spéciaux de France Inter dans le Donbass. Les Russes cherchent à éliminer tout ce qui est vivant dans la région, dit le président Zelensky. Il reconnaît que les prochaines semaines seront difficiles, alors que plus personne n'imagine la paix à court terme. Cette guerre n'est pas prête de s'arrêter, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue de Défense Nationale.
Elle peut durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'on voit que chaque jour passant, d'une part, l'Ukraine est totalement mobilisée contre l'ennemi russe. Et ce qui est aujourd'hui inquiétant, c'est que l'on voit du côté russe un durcissement, en particulier maintenant des critiques à l'égard du commandement russe et donc le fait qu'il faudrait aller plus loin pour gagner cette guerre. S'il y a 3 mois, le rapport de force était bien sûr en faveur de la Russie, on voit qu'il commence à s'équilibrer. Néanmoins, les Ukrainiens n'ont pas encore suffisamment de moyens pour totalement inverser la tendance et en particulier pour effectuer des contre-attaques qui leur permettraient de récupérer le territoire. D'où le fait que aujourd'hui tout se concentre dans le Donbass avec des combats qui sont extrêmement intenses et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, des pertes civiles dramatiques.
Voilà l'analyse du général Pellistrandi au micro de Mathilde Munoz dans le 5-7 tout à l'heure. Hier, 20 pays se sont engagés à fournir des armes à l'Ukraine. Le Danemark va envoyer des lance-missiles Harpoon, l'un des systèmes les plus sophistiqués utilisés par les marines occidentales. Enfin, 3 mois de guerre en Ukraine et une question ce matin. La Russie va-t-elle aussi déclarer la guerre alimentaire à la planète? La Russie qui concentre avec l'Ukraine un tiers des exportations mondiales de blé. Or, les ports ukrainiens sont bloqués avec leurs millions de tonnes de blé et la Russie a restreint ses exportations jusqu'au 30 juin. De quoi faire largement monter les cours, d'autant que la sécheresse plombe la production dans de nombreuses régions du monde. Alors la Russie peut-elle affamer une partie de la planète? Élément de réponse avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
La Russie s'attend à une récolte de blé record cette année, mais Moscou va-t-il utiliser l'arme alimentaire? Sur le principe, cela paraît peu probable. D'abord, la Russie n'exporte pas vers les pays qu'elle considère comme inamico, l'Occident. Ses clients sont d'abord l'Iran, la Turquie ou l'Égypte. Ensuite, si la Russie renonçait à exporter son blé, ce serait au détriment de ses propres agriculteurs et elle pourrait tout simplement perdre une récolte qu'elle ne pourrait pas stocker. Ce consensus est partagé par de nombreux experts, mais il ne faut rien écarter, estime Andrei Sizov, consultant sur les marchés agricoles.
Je ne pense pas que la Russie va limiter ses exportations, mais tout peut arriver. Après tous ces avertissements des Occidentaux, comme quoi la Russie est en train de déclencher une guerre alimentaire globale, le Kremlin a compris qu'il y avait un moyen de pression sur le reste du monde. Et si la Russie limite ses exportations sur la future saison, les cours pourraient facilement doubler ou tripler, ce qui serait un désastre.
C'est en juillet qu'on saura vraiment si la Russie exporte autant que d'habitude. En attendant, Moscou fait monter la pression. Hier, le vice-ministre des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, expliquait que, pour résoudre la crise du blé, il fallait commencer par lever les sanctions qui frappent les exportations russes. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
France Inter, 8h07. Il se défend face au micro et aux caméras. Damien Abad, accusé de viol, est toujours ministre des Solidarités.
Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Voilà ce qu'il a répété dans sa circonscription de l'Ain, après avoir siégé au Conseil des ministres hier, malgré les appels à la démission lancés par l'opposition. Damien Abad, cas de conscience pour Emmanuel Macron qui ne veut pas réagir dans l'urgence. Maxence Lambrecq, alors qu'Elisabeth Borne aimerait bien trancher dans le vif.
Aucune affaire ne se ressemble, mais c'est vrai, Emmanuel Macron a tendance à protéger ses équipes, admet un de ses fidèles. Il déteste céder à la pression, au tribunal médiatique, au tir aux pigeons. Il a attendu l'an dernier la condamnation d'Alain Griset. Il a toujours maintenu sa confiance à Gérald Darmanin, à Éric Dupond-Moretti. Et voilà ce qu'il déclarait pendant l'affaire François de Rugy en juillet 2019.
Moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les dix petits nègres.
Ne pas basculer dans la République de la délation, objectif louable, assure-t-on au siège du parti présidentiel. Mais cet horrible feuilleton peut nous coûter 5 points aux législatives. Tout le monde est effaré sur le terrain. Comment peut-on nommer une femme à Matignon et laisser pourrir cette affaire? Ils sont plusieurs dans la majorité à sentir qu'Elisabeth Borne veut vite tourner la page Abad. La lutte contre les violences sexuelles, un de ses engagements personnels, a souligné hier la porte-parole du gouvernement qui a insisté sur la tolérance zéro, sans jamais parler de la présomption d'innocence si souvent mise en avant par le passé.
Et de nouveau hier soir, Marine Le Pen a étrillé le choix d'Emmanuel Macron, qui ne peut pas résister à faire un bon coup, dit-elle, même avec un profil dont il savait qu'il pouvait poser problème. Un symbole et un message de la part d'un autre nouveau ministre, Pape Ndiaye, qui a choisi le collège de Samuel Paty pour sa première sortie hier. Rencontre avec des professeurs du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine pour leur dire que la République, par l'école, est la plus forte. Et puis tiens, voilà un ministère qui a changé d'appellation. Brigitte Bourguignon n'est pas seulement ministre de la Santé, mais ministre de la Santé et de la Prévention. Parce que notre hygiène de vie et notre environnement sont déterminants. Parce que le bon sens populaire avait raison. Victor Delande, c'est un fait. Mieux vaut prévenir que guérir.
Comme un symbole, c'est la première fois que le ministère de la Santé s'intitule ministère de la Santé et de la Prévention. C'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale. Pour François Bourdillon, ancien directeur général de Santé publique France, c'est un tournant, une prise de conscience.
Agir tôt, c'est un investissement qui permet de, à terme, réduire la pression sur les soins. Savez-vous que 41% des cancers sont considérés comme évitables? inévitable à partir du moment où on joue sur les principaux déterminants de santé que sont le tabac, l'alcool, la nutrition et l'environnement.
Autre volet très important de la prévention en santé, agir contre la pollution de l'air, comme l'explique Agnès Popelin-Desplanches, spécialiste santé-environnement au Conseil économique, social et environnemental.
On parle de 40 000 morts à l'année dues à la pollution de l'air. Il faut donc s'attaquer très en amont sur les causes de la pollution de l'air, donc sur l'aménagement du transport, privilégier les transports en commun plutôt que les transports individuels, voire la motorisation. Tout ça est à réfléchir.
Et dans son rapport qu'il rend aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental recommande d'ailleurs d'asseoir toutes les politiques publiques sur le principe de précaution. Autant de pistes très concrètes pour la nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon.
Enfin, augmentez vos salariés si vous pouvez. L'adresse de Bruno Le Maire hier aux organisations patronales qui n'engagent à rien face à une hausse des prix de presque 5% depuis un an. On attend maintenant le projet de loi pouvoir d'achat en Conseil des ministres avant les législatives. 3 cas confirmés de variole du singe en France. Ça fait 85 malades recensés en Europe. L'Agence européenne de prévention des maladies estime que le risque de contagion dans la population générale est très faible, mais plus élevé chez les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels.
Ça y est, on respire.
Mais oui, depuis hier, il fait moins chaud. Mais les températures de plein été qu'on a connues depuis un mois ont fait des dégâts, notamment dans les vergers du sud-ouest, où les producteurs de fraises ont dû jeter une partie de leur récolte. Reportage dans une exploitation du Tarn-et-Garonne, signé Hugo Charpentier.
Au milieu de la parcelle, parmi les ouvriers agricoles, Chaouki Sabani cueille des fraises au ras du sol, mais la plupart restent par terre.
On jette l'équivalent de 70% de marchandises, quoi.
Une récolte catastrophique sous les yeux de Laurent Dirat, le propriétaire de cette exploitation de 6 hectares.
Ça me fend les tripes. La chaleur que l'on subit depuis 3 semaines, où on a des températures de 10 degrés, voire presque 15 degrés au-dessus de la normale, en fait, les fraises mûrissent en 2 jours. C'est-à-dire qu'il faudrait passer 3 fois par semaine pour pouvoir récolter. Et il faudrait qu'on soit exactement 3 fois plus de salariés aujourd'hui.
Laurent Dirat envisage de réduire d'un tiers sa production dès l'an prochain.
J'ai pas envie de revivre une année comme ça.
Il s'interroge aussi pour le futur. Avec le réchauffement climatique, cultiver la fraise sera de plus en plus difficile.
Avec des températures trop importante, on ne pourra plus. Par contre, le remplacer par quoi? Vous savez, je me creuse la tête tous les jours, c'est compliqué. Il y a une filière qui se développe, c'est celle des protéagineux, des légumes secs qui viennent du Maghreb à l'origine. De toute façon, tout est complètement remis en question.
Réflexion nécessaire pour savoir à quoi pourrait ressembler les vergers de demain.
Les fraises qui font partie des fruits les plus pollués en Europe, avec les pêches, les cerises et les pommes. Les résidus de pesticides relevés par l'ONG Pan-Europe ont même augmenté depuis 2011, alors que les États membres auraient dû en limiter l'usage.
Peut-être un adieu aujourd'hui sur les cours de Roland-Garros.
Joe Wilfried Tsonga face au Norvégien Casper Ruud, numéro 8 mondial. Si le Français perd, ce sera le dernier match de sa carrière. Fabrice Abgral, voilà qui mérite bien un hommage.
Joe Wilfried Tsonga, c'était le patron du tennis français, rôle qu'il a assumé durant 15 ans. Tsonga, c'était l'exemple à suivre.
Depuis très jeune,
Gaël, mon fils.
On a toujours eu Joe comme rôle modèle. Le grand frère, la personne qu'on regardait, c'était fou, quoi. T'as envie d'être Joe Tsonga. Et c'était ça.
Joe Wilfried Tsonga a été aussi une source d'inspiration pour d'autres joueurs, dont l'Australien Nick Kyrgios, mais aussi le Canadien Félix Auger-Aliassim, métis comme Tsonga.
Tes idoles, tu veux que ce soit des gars qui te ressemblent un peu, donc d'avoir Joe comme ça, c'est pour ça que c'était mon idole. Et après, par son jeu qui était explosif, son charisme, son attitude, c'est tous pour ça qu'on aimait voir jouer Joe, quoi.
Joe Wilfried Tsonga a toujours été un joueur redoutable et un adversaire respecté par tous, dont Novak Djokovic.
Beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie positive, lui était très important pour notre sport.
Stan Wawrinka ne cache pas aussi son admiration pour Joe Wilfried Tsonga.
Il a une carrière incroyable, il a été top 5 pendant des années, il a battu tous les meilleurs joueurs au monde, il a fait rêver le public autour du monde.
Joe Wilfried Tsonga est fier de sa carrière, riche de 18 titres, d'une Coupe Davis et d'une finale en Grand Chelem. Mais ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir donné envie à des gamins un jour ou l'autre de jouer au tennis.
Voilà, et pour Gilles Simon aussi, dernier Roland-Garros attendu face à l'Espagnol Carreño Busta, 17e mondial aujourd'hui, sauf qu'il prendra sa retraite lui à la fin de saison. Place à la relève maintenant avec Diane Paris. 19 ans, l'a éliminé hier la numéro 2 mondiale étonnante du titre, Barbara Krejcikova, quand Corentin Moutet s'est offert le vainqueur de l'édition 2015, Stan Wawrinka. Enfin, une très grande star, on pense à Johnny Hallyday, des gilets jaunes, des habitants du 9-3 et même le couple Macron. On trouve tout ce petit monde dans Monument National en lice pour le prix du livre inter. Et vous savez que tous les matins ici même, nous vous faisons entendre l'un des auteurs sélectionnés. Et bien ce matin, Julia Deck, Monument National.
Je dirais qu'il s'agit d'un vieil acteur sur le déclin qui vit dans son grand château avec sa jeune épouse et ses enfants issus de plusieurs lits, mais surtout une armée de domestiques, en l'occurrence issus de Seine-Saint-Denis. Alors évidemment, il y a une forme de confrontation.
Ces personnages qui arrivent du 9-3, bah, ils entrent dans cette maison par la petite porte, et puis petit à petit, ils vont prendre pas mal de pouvoir. Vous avez l'air d'être presque contente de ça.
Une petite révolution de temps en temps, ça fait pas de mal quand même. Oui, l'idée, le projet, c'était quand même qu'il y ait une forme de révolution au château.
Est-ce que vous avez envoyé votre livre à Laetitia Hallyday ?
Mais non, et pas au Macron non plus. Le livre, il s'adresse pas au modèle potentiel, il s'adresse au lecteur. Enfin, c'est qu'est-ce que nous, lecteurs, on fait de toute cette matière qui nous est proposée par les journaux ? Oui, bien sûr, les Macron, ils apparaissent dans le livre, mais c'est certainement pas à eux que le livre s'adresse.
Voilà, une bonne dose d'humour dans Monument National de Julia Deck en livre pour le prix du livre inter. Et vous avez évidemment reconnu Eva Béton derrière le micro.
Autre Monument National, en quelque sorte. Merci à vous, Florence Paracuelos, pour ce journal. La suite, évidemment, de cette série, ici même, demain, 8h. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Marie-Pierre, l'atmosphère a changé.
Et oui, Jérôme, la chaleur s'est éclipsée après le passage de la dépression qui a entraîné dans son passage un air océanique et les jours s'élevaient avec seulement 6 degrés à Rostrénin dans les Côtes d'Armor, 8 à Cabourg, comme en Lozère, 10 à Guéret, alors qu'on relève 21 à Figari, 20 à Marseille et 16 à Strasbourg. Alors côté ciel, vous aurez quelques averses du sud-ouest en montant vers le Limousin. Le ciel restera couvert aussi avec des averses et même des orages sur l'est du relief pyrénéen. Des averses sont également en programme ce matin près des côtes de la Manche, mais aussi près des côtes atlantiques et aussi des Vosges. Aux Alpes du Nord, ailleurs, on retrouve un ciel variable entre quelques nuages, mais de belles éclaircies.
Et c'est le retour de l'instabilité cet après-midi sur les deux tiers du pays.
Effectivement, du sud-ouest, en remontant vers le Limousin, le centre, jusqu'à l'Île-de-France, aux Ardennes, on garde le parapluie. Puis sur les Pyrénées, le ciel va rester menaçant avec une possibilité d'orage, comme d'ailleurs sur les Alpes du Sud, jusqu'aux Alpes-Maritimes, ainsi que sur le relief Corse. En revanche, près des côtes de la Manche, vous passerez un après-midi plus ensoleillé, comme du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Côte d'Azur. Ça va se charger un peu sur les Bouches-du-Rhône avec le retour de la Tramontane et du Mistral. Et côté du Mercure, il fera au plus bas 15 à Tarbes, 16 au Havre et Aurillac, 17 à Brest, 18 à Paris comme à Mont-de-Marsan, comptez 20 à Perpignan, 22 à Strasbourg et à Grenoble, 24 à Montpellier, 26 à Manosque et 27 à Bastia.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. Il est 8h18, Géopolitique.